MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, a ouvert un premier espace d'exposition Fort Saint-Jean depuis le 31 mars. En attendant la réalisation complète du projet, confié aux architectes Rudy Ricciotti et Roland Garta, qui est prévu à l'horizon 2012. À propos du projet, de son contenu, et plus généralement des questions de civilisation et de culture populaire, voici quelques extraits d'un entretien mené par Frédéric Kahn avec Michel Collardel, directeur du MUSEM, accompagné de Émilie Girard, conservateur dans ce même musée, et de Philippe Foulquier, directeur du système Friche Théâtre.
Pour commencer, monsieur Collardel, peut-être essayer un petit peu d'interroger, que vous nous aidiez un petit peu à comprendre comment un musée des arts et traditions populaires, quand il arrive à Marseille, devient un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Pourquoi ce passage? Et puis les mots ont un sens. Donc, qu'est-ce que derrière ce changement de formulation, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne le projet?
D'abord, il faut inverser les facteurs. C'est pas parce qu'il est venu à Marseille qu'il s'est transformé, c'est parce qu'il s'est transformé que nous avons voulu parler de l'Europe et de la Méditerranée, qu'il est venu à Marseille. C'était la ville qui s'imposait, le lieu de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, entre le Sud et le Nord. Pourquoi passer de l'un à l'autre? C'est simple. Quand en 1936, Georges-Henri Rivière, pendant le Front populaire, crée le musée des arts et traditions populaires, il se pose des questions sur une société qui est à la veille de la guerre, une société dans laquelle, effectivement, le populaire prend ses lettres de noblesse, on s'intéresse à cette culture populaire. Aujourd'hui, s'intéresser à cette culture populaire dans l'espace français, c'est penser à la cité moderne, à la cité cosmopolite, c'est penser à l'immigration, c'est penser aux transformations économiques, aux transformations technologiques, c'est penser à l'avenir de la planète et à l'écologie. Bref, c'est quelque chose qui nous pousse hors de nos frontières et qui nous fait réfléchir autrement à la culture. Et du coup, nous réfléchissons en termes d'un espace plus vaste, qui est l'espace euro-méditerranéen, parce que c'est un espace commun, un espace historique commun, traversé par des populations, traversé par des religions, traversé par des idées, traversé par des marchandises, qui forment à la fois en permanence quelque chose de commun et en permanence quelque chose de différent, car on se différencie en permanence. Donc c'est cet espace-là que nous interrogeons, d'abord parce qu'il est présent intégralement dans notre cité et que d'autre part nous en dépendons pour notre histoire et pour la jeunesse de notre culture.
Alors, qu'est-ce que c'est la culture, finalement? Parce que c'est un mot tellement vaste qui peut recouper des significations tellement diverses. À la Friche, la Belle de Mai, on fait de la culture. Le sens que vous portez au mot culture est un sens, me semble-t-il. Peut-être, en tout cas, on va voir à quel endroit, justement, ça se rencontre et à quel endroit, peut-être, ça diverge, est un sens beaucoup plus large.
Pour moi, la culture, d'abord, il y a plusieurs sens possibles, hein. J'exclus, je dirais, la vision officielle, étatique de la culture. Une culture qui est décrétée par les académies, ceci est beau, ceci est bon, ceci est bien. Et tout ce qui n'est pas décrété par les académies, tout ce qui n'a pas été défini par le pouvoir, est dans le champ de l'adultérin, dans le champ de l'innommable. Nous partons d'un autre point de vue. La culture, c'est l'ensemble des signes qui permettent aux sociétés et aux membres de ces sociétés de se reconnaître comme solidaires, et de, par conséquent, se différencier des autres.
Philippe Foulquier, sur cette notion de culture, des signes qui permettent aux membres d'une société de se différencier des uns des autres, quand on le projette sur sur le champ artistique, comment ça peut résonner, ça?
Je trouve qu'il y a une actualité qui nous sert quelque chose de très chaud là-dessus. Se différencier, c'est justement le contraire de s'identifier à un modèle qui n'est pas vécu par ceux qui arrivent comme ça, sous prétexte qu'ils ne parlent pas la langue ou qu'ils ne maîtrisent pas bien le mode de vie. C'est au contraire, se différencier, c'est un signe de vie, quoi. C'est se reconnaître. Pour se reconnaître, il faut pouvoir non pas s'identifier ensemble, se confondre, mais au contraire, par exemple, avoir sa langue. Quand on fait ici un théâtre en langue arabe, dans une ville qui a 125 000 habitants, il y a un chef d'entreprise l'autre jour qui vient de rapporter un prix que décerne le journal Les Échos, qui me disait « Mais c'est quoi cette ville qui déteste 25% de sa population ?» Bon, j'ai dit « C'est pas vrai, la preuve, on fait un théâtre en arabe. » Mais c'est cette idée d'identité répertoriée, enfin, comment dire, pas répertoriée, mais... canalisé, défini par un modèle qui serait d'abord parler une langue, enfin bon, ou l'écrire même, je crois. Enfin bref, c'est l'actualité nous sert quelque chose par rapport à cette nécessité de parler justement cette différenciation.
ملكت إنساني من لالو نظرة هم صلي على سيدنا
Bien sûr, dans cette notion de différenciation, dans cette notion de circulation des cultures, on sent bien malgré tout qu'on ne peut pas être sur une approche iréniste et que les cultures aussi se confrontent. Et quand vous avez parlé effectivement de la manière dont les cultures se sont interpénétrées, ça s'est beaucoup passé aussi par la violence, par la guerre et par la destruction. Et aujourd'hui, les cultures apparaissent aussi comme des modes de repli identitaire et des prétextes à déclencher des guerres.
Des cultures identitaires ou des reconstruction culturelle identitaire. Oui. De quoi s'agit-il ? Lorsque nous nous réfugions dans une identité revisitée après l'avoir perdue, reconstruite pour l'arborer comme un signe de reconnaissance et de résistance, est-ce qu'il s'agit d'une culture ou est-ce qu'il s'agit d'une néoculture ? Et je crois qu'il faut bien réfléchir à ce qu'est l'instrumentalisation de la culture. La culture est extrêmement aisée à manipuler, à utiliser comme une arme pour faire se battre des gens. Alors, la culture populaire, elle est tout à fait différente. La culture populaire, vous parliez à l'instant de Marseille. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie, avant la guerre d'Algérie, à Alger, dans un quartier populaire, le quartier du Hamma. Eh bien, il y avait une juxtaposition de gens, d'ethnies, comme on dirait aujourd'hui, différentes, de religions différentes, etc. Tout ce monde-là vivait assez bien ensemble. C'était pas sans tension, c'était pas sans brisure, mais ça vivait assez bien juxtaposé, parce que, j'allais dire, dans une relative misère ou dans une relative modestie de moyens, il fallait bien que tout le monde se complète et qu'on s'entraide. C'était la survie qu'il commandait. Et le populaire, il est assez pragmatique. Dans l'exposition que nous faisons actuellement, que nous préparons qui s'appelle Trésors du quotidien, avec un point d'interrogation, qu'est-ce que c'est que les trésors du quotidien, Europe et Méditerranée ? Eh bien, nous réfléchissons justement à ces concepts. Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui distingue ? Qu'est-ce qui transmet ? C'est les grands thèmes, si vous voulez, qui construisent la culture populaire. On est toujours dans de l'utile, on est toujours dans du fonctionnel. Et ce fonctionnel-là, à la base, il nous tire vers le réel. Mais il nous tire vers le réel sans qu'on abdique des signes de reconnaissance, des signes qui expriment des valeurs. Et là, le populaire, de nouveau, fonctionne autrement. S'il n'est pas manipulé, s'il n'est pas brutalisé, s'il n'est pas contraint, il fonctionne par des reconnaissances communes.
Ça me rappelle une expérience qu'on avait réalisée avec un artiste qui est très pénétré de l'histoire des marionnettes, qui s'appelle Roland Schön, qui est en même temps psychiatre. Alors ça lui donne du champ pour appréhender les choses. Et il avait fait un reportage, c'est pas un reportage, il a fait un travail sur l'objet et les gens. Pas du tout ethnologue, tout à fait phénoménologique. Hein. Il filmait les gens, il a mis du temps à trouver comment le filmer, et finalement avec un objet familier. Hein. Bon, il y en avait un, c'était son plat arabe à faire cuire, je sais pas quoi. Enfin, pas un tagine, je sais plus comment ça s'appelle, le plat de terre, là. Un autre, c'était une tasse à café, enfin bref. Et chaque personne racontait une histoire à l'objet, et finalement, il a compris au bout d'un certain temps que la seule manière de vraiment le parler, c'était de cadrer sur les mains autour de l'objet.
Et oui.
C'est-à-dire pas de discours parasitant. La fonctionnalité de l'objet. Tu es obligé de l'enserrer dans sa forme et de le montrer dans cette forme. Et alors, à ce moment-là, tu peux raconter vraiment, très pragmatiquement, l'histoire de cet objet et finalement ses références en même temps. Hein. Et c'était très agréable parce que c'était pas du tout l'approche... c'est pas du tout le beau plat arabe, c'est pas ça la question. Ce qui était beaucoup plus émouvant, c'était la façon dont cet objet travaillait, l'histoire qu'il avait avec cet homme-là et finalement avec ceux qui le regardaient.
Est-ce que l'impression, l'intuition, là, comme ça, un petit peu, peut-être, qui n'est pas fondée, qu'on va vers un rétrécissement, justement, des sociétés, des civilisations, que les langues disparaissent, que les savoir-faire disparaissent, que la mondialisation conduit à l'uniformisation des pratiques, des us et coutumes. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
J'ai une réponse de principe et puis une réponse pragmatique. La réponse de principe, c'est qu'il faut toujours être pessimiste de façon à ne pas être dépassé par l'évolution des choses et avoir prévu le pire. C'est une bonne leçon, c'est une bonne façon d'être en société dans une histoire. Pessimiste actif, bien entendu, mais pessimiste. La deuxième réponse, moi je suis très mal à l'aise devant l'idée d'une disparition des cultures. Je pense qu'on ne peut pas conserver les cultures. Les cultures, ça ne se conserve pas. Ça ne se met pas en conserve. On peut garder des témoins pour les montrer dans un musée ou dans un livre, etc. Mais on ne peut pas les conserver. On ne peut pas conserver des traditions qui meurent. Autrement, c'est du folklore. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est s'interroger sur comment les cultures aujourd'hui peuvent continuer à se différencier, à s'enrichir. Je crois qu'il y a une métaphore qui est peut-être pas valable sur un plan strictement scientifique, mais qui est assez instructive. C'est l'idée de la génétique. Vous prenez 50 personnes, 100 personnes, 10 000 personnes, faites une progression géométrique, vous arrivez à je ne sais pas combien de milliards aujourd'hui, et puis vous brassez tout ça, et vous avez toujours des personnes différentes. Bon, bien sûr, pour les besoins d'un film, vous pouvez trouver un sosie de la reine d'Angleterre. Mais je veux dire que, globalement, vous n'arrivez pas à produire deux êtres pareils, alors que ça se brasse tout le temps. Eh bien, les cultures, c'est un peu ça. Ça se brasse tout le temps, ça s'est tout le temps brassé. Et plus ça se brasse, plus ça produit de la différence. La question, ensuite, c'est de savoir comment ces différences s'articulent dans des projets politiques. Et c'est effectivement la question du choc des civilisations, d'un certain nombre d'autres grandes interrogations que nous avons. Mais là, nous ne sommes plus dans la culture. Nous sommes dans la manipulation de la culture.
Philippe, par rapport à cette... pareil, hein, d'un point de vue d'un producteur de projets artistiques, comment ça s'articule, cette question de la différence?
Je crois... Enfin, moi, je ne suis pas un pessimiste militant, mais je ne me pose pas tout à fait de la même façon. Mais à partir du moment où je pose la question de la création artistique, je me pose la question du devenir d'une réalité qui nécessairement se transforme. Donc, d'une part, je pousse complètement cette idée que la civilisation n'arrête pas de se transformer, de s'enrichir, hein, et pas de s'appauvrir. Même voilà, si, exactement. Alors, elle peut s'appauvrir la guerre. Bon, elle peut subir des contre-coups, des choses comme ça, mais elle continue de se développer. Mais d'une manière générale, je suis pas pessimiste. Moi, je pense que le discours pessimiste, non pas le positionnement, mais la façon de dire la civilisation part en nouille, tout ça.
Pour moi,
c'est oui, c'est ça. C'est d'une certaine, ça conduit assez vite à être dans des idéologies gravissimes, quoi.
Sur la dernière question, sur la notion de culture populaire, on sent bien un moment, de par le système dans lequel on évolue dans nos sociétés occidentales, hein, je parle de l'endroit où on est, que derrière ce mot de culture populaire, c'est un prétexte aussi à beaucoup de démagogie. Hein, si la culture populaire, si la culture de masse, c'est la culture dominante à la télévision, on n'a pas envie de culture populaire. On aurait, donc comment, là encore une fois, comment tordre ce mot pour lui redonner sa puissance, pour lui donner une fierté et pour pas qu'il soit au service de quelque chose qui ressemble plus à une entreprise de d'avilissement.
Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas de réponse précise à cela. Moi, je peux juste vous dire que je n'aime pas beaucoup l'idée de culture populaire. Je préfère l'idée de civilisation. Pour moi, je prendrais volontiers le terme de peuple au sens latin, si vous voulez, du terme. C'est-à-dire l'ensemble des strates qui fabriquent une société dans leur complexité, dans leur rapport, y compris conflictuel, contradictoire, etc. Donc, pour moi, culture populaire, ça serait ça, si je devais le prendre. Dans la culture, dans toutes les cultures, même à leur niveau le plus élémentaire, les strates du pouvoir, la culture officielle, etc., s'expriment, ne serait-ce que par contradiction. Donc, je préfère le mot de civilisation, parce que civilisation est un concept plus large, beaucoup moins manipulable par un État. On ne peut pas dire civilisation française. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour parler de civilisation française. On peut parler de civilisation occidentale, à l'extrême rigueur. Je ne sais pas. Ça se discute. Mais en
on
tout
parle
cas,
bien de choc des civilisations. Oui, donc il y a une instrumentalisation
oui, mais
politique.
Oui, enfin, ça, c'est, ce qui est important, c'est choc. Mm. Civilisation, c'est un oripeau, là, dans cette affaire. Ce qui est important, c'est le choc. C'est pour ça que nous faisons un musée qui est un anti-choc. C'est un musée anti-choc. Anti-choc des civilisations. Bon, bien. Ce qui est plus intéressant, c'est le mot de civilisation. C'est un mot large. C'est un mot qui dépasse la notion de frontière. C'est un mot qui n'a pas de frontière, justement. On ne peut pas dire qu'une culture s'arrête là, parce que, si, suivant la façon dont vous prenez dont vous analysez votre civilisation, vous l'analysez en forme de, par exemple, quel est le système économique dominant, quel est le système linguistique dominant, quel est le système politique dominant, quel est le système de valeurs religieuses dominant, etc. Et vous allez vous apercevoir que vous avez une multitude de cartes qui ne s'articulent pas entre elles. La carte de la langue française par rapport à la carte de la démocratie, par rapport à la carte de, je ne sais pas quoi, l'économie, ceci ou cela, ça ne va jamais coller. Bon. Donc ça fait un univers imprécis. Dans la carte que nous sommes en train de faire l'exposition, nous avons effacé les frontières. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse du flou. Qu'on mette du flou. Parce que même les mers, c'est pas des rivages. Ça percole, ça circule tout le temps, ça traverse. Bon, il y a rien qui soit vraiment limité. Donc, c'est ça, la civilisation. Je préfère ce mot de civilisation, qui est un mot interpénétrant, qui est un mot dynamique. Alors que culture populaire renvoie à un temps de notre histoire que, d'ailleurs, je ne récuse pas. Je suis très heureux que l'origine de notre musée, ça soit le Front populaire, ça soit Jean Zay, ça soit, etc. C'est très honorable, hein, c'est magnifique même. Et je suis très attaché à l'idée que l'idée de notre fondateur, Georges-Henri Rivière, qui disait « c'est un musée qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ».
Philippe, par rapport à ça ?
Moi, j'avais deux exemples. Hein. Il y a le chant des Mondines dans les rizières italiennes. Alors ça donne un film Riamer ou ça donne les concerts de Giovanna Marini, c'est là que ça devient culture. Mais au moment où c'est chanté, où c'est fabriqué, c'est juste l'expression d'une malice, quoi, d'une façon de se moquer du contremaître ou autre. Bon, et l'autre, c'est au théâtre ce soir. Alors cette émission qui, dans les années, je sais plus, 60-70, emmerdait tout le monde, mais donc était populaire, hein, au sens strict, enfin au premier sens du terme, donnait une image du théâtre qui était complètement absurde, quoi. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus au théâtre ce soir. Il n'y a pratiquement plus de théâtre à la télé. Du coup, il n'y a pas de culture théâtrale du tout. Et donc, ça donne un champ de liberté extraordinaire dont s'approprie mal, à mon avis, l'agent théâtral. Mais en tout cas, il y a un champ de liberté pour réinventer quelque chose d'une autre pratique du théâtre. Bon, ce n'est pas la catastrophe, hein, en l'occurrence, parce qu'il y a quand même des références, il y a des acteurs, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Mais il y a une idée du théâtre, en tout cas, qui a disparu. Qui est plus dans la tête des gens et qui, enfin, ou très beaucoup moins, et qui permet de reposer d'autres rapports au théâtre que ceux qui étaient. Qui, des fois, je me disais, mais au fond, je regrette, parce qu'au moins, ils avaient une culture théâtrale. Ben non, ils avaient une idée du théâtre qui était pas. Qui était appelée populaire.
À propos de l'exposition inaugurale du musée, Émilie Girard, conservateur.
C'est une exposition qui s'appelle donc « Trésor du quotidien, Europe et Méditerranée » avec un point d'interrogation puisqu'elle interroge la notion de trésor. Qu'est-ce qu'un trésor du quotidien? Puisque dans cette exposition, on va présenter de beaux objets et des objets de peu. Puisque ce que disait M. Foulquier tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire que l'objet, il prend son sens quand on parle de lui, quand on raconte son histoire. Donc on va voir comment les gens vont réagir à cela et ça... C'est ça qui nous intéresse. En plus, cette exposition, on a tenté de mettre en place autour d'elle un système de support, d'aide à la visite un petit peu novateur, puisqu'on aura tout un système bon d'audio-guidage classique, mais d'audio-guidage qui va se faire par iPod, et les textes seront téléchargeables sur le net pour que les gens puissent venir avec leur matériel. Le matériel leur sera distribué pour les gens qui n'en disposent pas, mais tout ça est faisable, je dirais, à domicile. Donc c'est une nouvelle vision de l'exposition qu'on a voulu un peu moderne pour attirer peut-être un public qui n'est pas habitué à ce type d'exposition, à ce type de parcours. On a aussi souhaité développer une salle qu'on appelle Atelier de l'ethnologue, qui va présenter au public la manière dont l'ethnologue travaille à travers l'exemple du musée, de l'histoire du musée de l'homme au MUCEM, en passant par le musée des arts et traditions populaires, donc avec des fusions de films d'ethnologues, d'interviews d'ethnologues parlant de leur métier, diffusion d'enregistrements sonores faits sur le terrain, présentation du matériel de l'ethnologue, pour mettre un petit peu comme ça en parallèle les objets et montrer comment est-ce qu'ils ont été collectés, pourquoi et quelle peut en être la restitution au public.
Sur quel espace géographique vous avez travaillé ?
Donc ça, sur l'aire culturelle qui est défendue par le MUCEM, donc l'aire euro-méditerranéenne.
Vous écoutiez Michel Collardel, directeur du MUCEM, et Philippe Foulquier pour le système Friche Théâtre, ainsi que Émilie Girard, conservateur du MUCEM. Un entretien réalisé par Frédéric Kahn. Vous retrouverez une retranscription de cet entretien dans la prochaine édition du Journal de la Friche, à paraître très bientôt. La première exposition du MUCEM est intitulée « Trésors du quotidien ». Elle est visible au Fort Saint-Jean jusqu'au 24 septembre, tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 19h. Renseignements au 04 91 91 84 57 ou sur le site www.mucem.eu. Nous sommes les vivants.